Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce quatrième café débat d'Oulgat consacré aux femmes photographes et au festival photo d'Oulgat, Les femmes s'exposent. Ce festival a été fondé à Oulgat en 2018 par Béatrice Tupin. C'est donc cette année sa quatrième édition. Il se déroulera cette année du 1er juin au 8 août 2021. C'est un festival ambitieux par son importante programmation et exigeant par la qualité très soutenue de ses photographes. La présence depuis son démarrage de marraines aussi prestigieuses que les renommées Françoise Huguier, Jeanne-Evelyne Atwood et Christine Spengler témoigne de sa grande qualité. Comme il s'agit de femmes photographes, la première partie de l'entretien se tiendra avec Marie Robert et portera sur la place des femmes dans l'histoire de la photographie. Tout d'abord, quelques mots sur nos deux intervenantes que nous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Béatrice Tupin, après avoir été infirmière dans une première vie, vous avez travaillé durant 24 ans au Nouvel Ops, devenu l'Ops, d'abord comme iconographe, puis comme chef du service photo. Vous avez fondé à Oulgat en 2018 le Festival des femmes s'exposent, dont nous avons pu voir les tirages les trois derniers étés dans plusieurs endroits de la plage et de la ville. Et vous êtes soutenue par de nombreux partenaires, publics et privés, dont la ville d'Oulgat. Marie Robert, vous êtes conservatrice en chef, chargée de la photographie au musée d'Orsay. Vous avez été la commissaire de plusieurs expositions, comme Misia, Reine de Paris, en 2012 à Orsay, Splendeur et misère, image de la prostitution en 2015 à Orsay, Qui a peur des femmes photographes, 1839-1945, à cheval entre 2015 et 2016 à Orsay et l'Orangerie. Dans cette exposition importante, organisée en deux parties, vous avez assuré le commissariat de la première. Vos recherches portent sur la place des femmes dans l'histoire de la photographie, ainsi que sur les relations croisées entre la photographie et les autres arts, cinéma, peinture, musique, littérature. Vous avez co-dirigé avec Luce Lebar une histoire mondiale des femmes photographes, publiée avec un grand succès en 2020 aux éditions textuelles, ouvrage qui vient d'être récompensé par le prix J'aime le livre d'art, qui est devenu un véritable label de qualité. Donc Marie Robert, c'est donc avec vous que nous débarrons cet entretien d'une vingtaine, 25, 20, 25 minutes. Depuis quelques années, les initiatives cherchant à mettre en valeur les femmes photographes se multiplient, en parallèle d'initiatives plus globales cherchant à mettre en lumière la place des femmes dans les arts et la culture en général. On peut citer, parmi d'autres, outre vos propres expositions et votre livre dont nous venons de parler, l'exposition « Elles sont modernes, elles sont photographes » en 2015 au Centre Pompidou, Malaga, le parcours dédié aux femmes photographes proposé en 2018 à Paris Photo et qui s'intitulait « LX Paris Photo ». On peut signaler aussi, au passage, l'actuelle exposition du Centre Pompidou, « Elles font l'abstraction » qui succède à Centre Pompidou, qui avait accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Donc, ma première question, Marie, il y a eu dans les premières histoires de la photographie, notamment les histoires de la photographie française, un grand silence sur la contribution des femmes dans la photographie. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce silence, de ce vide historiographique?
Alors, avant tout, je voudrais quand même vous remercier pour cette invitation. Évidemment, je suis très honorée de participer à cet échange et très impressionnée. Et j'espère simplement que ce petit jeu de questions-réponses entre vous, Catherine, et moi ne sera qu'un préliminaire, un préambule et qui pourra très modestement contribuer à éclairer tout le travail que mène Béatrice depuis 4 ans, un travail qui est vraiment époustouflant.
C'est évident.
Par sa qualité, son ampleur et sa détermination. Alors, pour revenir très simplement et rapidement sur mon expérience dans le domaine des femmes photographes, mon expérience d'historienne, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Donc là aussi, je voudrais le dire, parce que je parle aussi au nom de plusieurs autres personnes. Mon collègue Thomas Galifot, avec lequel j'avais fait cette exposition sur les femmes photographes, mes élèves et auditeurs auprès de qui j'ai enseigné pendant quelques années l'histoire des femmes photographes, et puis donc Luce Lebar, vous avez mentionné, qui est ma complice pour cet ouvrage qu'on a réalisé avec 160 autrices. Donc, c'est une histoire aussi qui se veut très collective et très plurielle, qu'on est en train de, peut-être, avec Béatrice et tant d'autres, de faire émerger. Et donc, simplement, vous me demandez s'il y a un vide, mais un vide pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on a pu constater après toutes ces années de recherche, c'est finalement que les femmes photographes ont été présentes par milliers, en fait. Hein. Ce sont aujourd'hui des milliers de noms que je pourrais évoquer avec vous, sur tous les continents, de la Nouvelle-Zélande à la Chine, à l'Afrique du Sud, au Groenland, depuis l'invention de la photographie en 1839. Et il faut aussi savoir que les femmes ont pratiquer tous les genres de la photographie sur tous les territoires, si vous voulez, aussi bien du portrait au reportage, en passant par le documentaire, le nu ou que sais-je encore. Mais bien sûr, avec des rythmes variables selon les époques et selon les endroits ou les lieux de pratique. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes, elles ont non seulement contribué à l'histoire de la photographie, mais elles l'ont fait. Véritablement. Or, quand on a entamé nos recherches, mon collègue et moi-même, en 2013, on s'est aperçu qu'il y avait en effet un vide historiographique, c'est-à-dire qu'il y avait une absence de recherche en histoire de la photographie, une absence de travaux, pas d'enseignement sur la présence des femmes dans cette histoire. Et donc, on pourrait penser qu'il y a un rien culturel. Pas de femmes dans l'histoire de la photographie, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de femmes photographes. Une anecdote, un exemple, au musée d'Orsay, quand on commence à faire nos recherches, on a une magnifique collection de photographies représentatives de la pratique au XIXe siècle. On a à peu près 45 000 objets photographiques, dont 30 000 à peu près attribués à des auteurs. Sur 30 000 objets attribués, en fait, on compte moins de 100 objets attribués à des femmes. C'est vous dire qu'en fait, il y a 7 ans, la collection ne comportait moins de 0,1% de photographies attribuables à des femmes. Et puis, quand on se documente, on va lire les manuels, les histoires de la photographie, les anthologies, etc., de langue française, et bien là aussi, on fait un constat, c'est que d'une très faible proportion de femmes dans les ADEX, dans les tables des matières, dans les illustrations. C'est toujours bien en deçà de 10%. Sur 100 noms évoqués par les historiens, il y en a plutôt moins de 8 ou moins de 7 dans tous les ouvrages, même les plus récents. Voilà, donc ça, c'était. Et puis, par ailleurs, on constate aussi une très faible présence de monographies, donc d'ouvrages dédiés à des femmes, et encore plus quand il s'agit de femmes photographes du 19e siècle. Donc voilà, c'était pour répondre à votre première question sur ce vide historiographique qui est très surprenant au vu de la pratique massive des femmes photographes dans l'histoire depuis deux siècles.
Justement, une question qui est corrélée à la première. À votre avis, ce silence relève-t-il plus d'une singularité du monde de la photo ou obéit-il plutôt à une tradition plus générale de discrédit des femmes dans tous les domaines de l'art?
Alors c'est, oui, ça, c'est vraiment une question très importante à laquelle je ne vais peut-être pas répondre non plus définitivement, mais... la photographie, donc, c'est un médium neuf hein, qui a deux siècles, qui naît dans les années 1830 officiellement et qui opère une révolution conceptuelle majeure hein, de pouvoir enregistrer le réel avec un outil mécanique et puis pouvoir très vite diffuser les images par la reproduction de celles-ci dans le monde entier. Et donc, on pourrait penser que c'est un univers, un champ qui... finalement, n'a pas le poids de la tradition, parce qu'il est neuf, à l'inverse de la peinture. Hein, vous savez qu'il y a un certain nombre de structures ou d'institutions qui sont très contraignantes. Par exemple, l'École des Beaux-Arts n'accepte pas les femmes artistes jusqu'au début du XXe siècle. Bon, la photographie, c'est quelque chose qui, a priori, peut sembler différent, mais en fait, manifestement, et encore plus en France que dans d'autres pays, hein, parce que c'est un pays très androcentré, très patriarcal, il y a le code civil napoléonien qui fait de la femme un être mineur, et bien en fait on constate voilà, qu'effectivement il y a une très forte tradition de discrédit qui est aussi propre à la photographie. Alors les raisons, on peut aller les chercher du côté de l'anthropologie, la sociologie, hein, où vous avez des chercheurs et des chercheuses comme Margaret Mead, Françoise Héritier, Pierre Bourdieu, qui explique l'invariant de la domination masculine. Moi, je serais bien incapable d'aller dans ce sens-là, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des mécanismes de discrédit qui sont récurrents et qui sont propres à la photographie, mais qu'on va retrouver partout, dans tous les autres champs de la création. qui consiste en fait à dénier, à minorer, à invisibiliser la pratique, la production des femmes photographes. Alors, un peu pêle-mêle, comme ça, pourquoi est-ce que toutes ces femmes sont restées si longtemps effacées, ignorées? Ben, d'abord, parce que bien souvent, les femmes photographes, elles ont, comme les femmes d'ailleurs, hein, elles ont un sentiment d'illégitimité, d'imposture, et ça, on le constate d'emblée en lisant les écrits des premières femmes photographes. Bien souvent aussi, elles ont eu un conjoint qui était artiste ou photographe comme elles et qui a beaucoup tiré la couverture à lui à une époque où, effectivement, quand on travaillait en couple ou quand on était deux artistes, bah, c'était tout le temps l'homme qui prenait un peu trop la lumière. Il y a le fait qu'elles ont été cantonnées à des genres parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de beaucoup bouger, donc elles étaient un peu cantonnées à la pratique de la nature morte, du portrait d'enfant, au tableau domestique. Donc, c'est des genres qui ont été systématiquement minorés, déconsidérés. Je vous l'ai dit aussi, voilà, donc un autre phénomène de discrédit, bah, c'est que la photographie, c'est un milieu initialement très androcentré, donc qui fonctionne sur l'entre-soi, la cooptation. Et donc, on va dire qu'on ne choisit que ceux qui nous ressemblent. Donc, quand dans un collectif, un photoclub, une agence plus tard, une association, bah, il y a une majorité d'hommes qui continuent en fait à s'accroître en se choisissant entre eux. Bon, c'est un phénomène tout à fait universaliste. Et puis enfin, il y a d'autres mécanismes comme une forme propre à la photographie, comme la dépréciation technique récurrente. On peut le voir dans les discours des fabricants d'appareils, on peut le voir dans le discours des collègues, des photographes. On a toujours eu tendance à déconsidérer la compétence technique des femmes, à penser que ce qu'elles faisaient, c'était l'effet d'un raté ou d'un manque de savoir. Par exemple, le cas est bien connu de Julia Margaret Cameron, qui est l'une des plus grandes photographes anglaises du 19e siècle. Eh bien, elle invente le portrait grandeur nature, par exemple. Elle invente le flou comme effet artistique. Mais, et tout ça dans une vraie maîtrise, hein, elle le dit, ouais, moi j'ai arrêté ma mise au point quand ça me plaisait. Eh bien, il y a un de ses confrères ou critiques de l'époque qui croit qu'elle ne sait pas faire, en fait, qu'elle fait du flou parce qu'elle ne sait pas manipuler la chimie ou la machine. Et puis enfin, et ça c'est aussi très important, les femmes ont moins pu compter sur un conjoint ou des héritiers, parce que bien souvent, elles avaient une vie émancipée, plus libre, moins hétéronormée. Et donc, elles se sont souvent retrouvées sans enfants ou sans conjoints qui ont pu assurer leur postérité. Donc, ça, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'expliquer cette invisibilité ou ce discrédit permanent. Je pense que voilà, c'est effectivement présent dans tous les champs de la création, les beaux-arts, le cinéma, on s'en rend compte aujourd'hui, la bande dessinée. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on est tous responsables, c'est-à-dire peut-être les femmes elles-mêmes, leurs conjoints, leurs confrères, les critiques, les journalistes, mais je dirais aussi tous les intermédiaires culturels, que sont les historiens, les commissaires, les curateurs. Et donc, c'est pour ça que je souligne aussi le travail très important d'une personne comme Béatrice Tupin, parce que, justement, elle travaille à reconsidérer cette histoire-là.
Finalement, donc on a vu donc invisibilité dans les premiers temps de l'histoire de la photographie, mais avec le temps, depuis une quarantaine d'années, un recadrage semble s'être opéré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, Marie, finalement, comment s'est opéré ce recadrage qui semble partir des États-Unis pour remonter vers l'Europe et puis enfin, in fine, vers la France?
Oui, tout à fait. C'est vrai que les Américains, enfin les Anglo-Saxons, ont été précurseurs dans beaucoup de domaines, dans la recherche en sciences humaines, sciences sociales, en sciences historiques. Et c'est vrai qu'ils ont un rôle de pionnier dans la considération du sexe comme un élément important pour comprendre la production historique, parce qu'aussi, ils ont utilisé des outils que nous, en France, on n'utilise pas parce qu'on est très universaliste, en fait, hein, les outils de l'identité, les concepts autour du genre, mais aussi autour de la race, de la classe. Voilà, ce sont des choses qui ont été mobilisées il y a une quarantaine d'années par des chercheurs et des chercheuses surtout, et qui ont pu produire de très nombreuses monographies, anthologies, qui ont réalisé des expositions aussi consacrées à des femmes photographes, à des corpus de femmes photographes, des femmes photojournalistes, des femmes photographes noires. Donc ça, c'est très important. Et puis, effectivement, ensuite, les pays germanophones, l'Allemagne, l'Autriche, ont aussi été très actifs dans ce domaine. Je pense en particulier à Ute Eskilsson, qui a fait émerger beaucoup de figures de femmes allemandes pendant l'entre-deux-guerres, entre autres, ou je pense aussi à Gabriele Schor à Vienne, qui, elle, a conceptualisé un courant qu'on appelle l'avant-garde féministe, qui a montré à quel point la photographie avait été un outil extrêmement intéressant chez les plasticiennes dans les années 70. Et donc en France, on y est venu un peu tardivement, un petit peu sur la pointe des pieds. Il faut reconnaître d'abord le fait d'un historien collectionneur qui s'appelait Christian Boucret, plutôt un collectionneur qui est devenu historien du fait de la collection qu'il a réalisée, et qui a mis à jour des noms comme vous connaissez peut-être Germaine Krull, Hergé Landau, Nora Dumas, en proposant des ouvrages et puis des expositions à Paris. Et puis ensuite, il y a eu le travail admirable de Martha Gili, qui a été depuis 2006 directrice du Jeu de Paume à Paris aussi, et qui là aussi a commencé une programmation presque paritaire ou paritaire, en mettant à l'honneur des photographes de tout continent. Je vous donne quelques noms, ça doit vous parler. Lee Miller, Lisette Model, Dorothy Lange, Diana Burse, Suzanne Meselas, entre autres. Voilà. Et puis, il y a eu aussi des initiatives très heureuses, peut-être moins connues, moins visibles, parce qu'un peu périphériques, parce que quand on n'est pas à Paris, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais je pense par exemple au travail d'Odile Andrieux en 2014 dans son festival à Vendôme, les rencontres photographiques, qui avait eu une programmation autour de la question des femmes. Je crois qu'il avait intitulé Les femmes sont des photographes comme les autres. Voilà, donc il y a eu une succession, une multitude d'actions, la part soit d'individus, soit d'institutions ou d'organismes publics. Et c'est vrai que le fait qu'un musée comme le Centre Pompidou ou le musée d'Orsay s'empare de ces questions, ça donne une forme de légitimité, de prestige, en fait, ou de caution intellectuelle à la démarche. Et puis, voilà, tout ça fait boule de neige. Aujourd'hui, il faut aussi remarquer que le ministère de la Culture s'est emparé de ces questions avec le parcours dont vous avez parlé lors de la foire Paris Photo. Et puis qu'il y a beaucoup de collectifs qui s'organisent. Je pense au collectif Les Filles de la Photo, par exemple, qui est un collectif de femmes photographes professionnelles qui s'entraînent en fait dans une logique un peu d'empowerment. Je pense aussi au travail de Marie Daucher, qui est une photographe et militante féministe, qui a un collectif autour d'elle qui s'appelle La Part des Femmes et qui a beaucoup fait aussi pour rendre visible, chiffres à l'appui, la sous-représentation des femmes photographes aujourd'hui dans les foires, dans les agences, dans les expositions et puis bien sûr donc dans les festivals.
La photographie, outre son approche par les praticiens de la photographie, hein, les photographes eux-mêmes, c'est aussi les théoriciens de la photographie, les historiens de la photographie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, en fait, par rapport aux femmes? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que certaines ont été laissées dans l'ombre au début de l'histoire du médium?
Oui, alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, on a l'impression que, bon, maintenant qu'on a reconsidéré la place des femmes photographes, on a l'impression qu'elles ont été praticiennes et c'est tout. Et en fait, bien évidemment, elles ont pensé la photographie, son histoire. Sa matérialité, ses usages, ses caractéristiques. Elles ont produit du savoir, évidemment, depuis le début de la photographie au XIXe siècle jusqu'à nos jours. Et voilà, c'est là aussi un immense oubli ou déni ou discrédit qui est impressionnant. Et ce qui est aussi bon à savoir, c'est que non seulement elles se sont emparées des genres dits féminins de l'écriture, comme la correspondance ou les journaux intimes, mais finalement, en cherchant bien, elles sont des centaines à avoir produit des écrits qui sont plutôt considérés comme de l'écriture masculine. Je pense à quoi? Aux autobiographies, aux histoires générales, je pense aux manifestes, je pense aux manuels pour étudiants, je pense aux anthologies, aux thèses. Par exemple, les premières thèses en histoire, en photographie, ce sont des femmes qui les ont menées, comme l'américaine Imogen Cunningham qui a réalisé une thèse du IIIe siècle, donc au tout début du XXe siècle, sur la chimie photographique. Ou je pense à Gisèle Freund, que vous connaissez peut-être parce que c'est elle qui avait fait portrait officiel du président Mitterrand en 81. Gisèle Freund, qui est la première à produire une thèse en histoire de la photographie au prisme de la sociologie, enfin des sciences sociales. Ouvrage qui a ensuite, enfin thèse qui a ensuite été publiée, qui s'intitulait Photographie et société, et qui est peut-être le livre le plus connu ou qui a été surtout au chevet de tous les étudiants des années 1970, 1980. Donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, elles ont été nombreuses à théoriser, à faire cette histoire de la photographie, parce qu'en fait, les femmes photographes, comme beaucoup de femmes, évidemment, elles n'étaient pas que photographes, mais elles ont été aussi enseignantes, elles ont monté des agences ou des collectifs, elles ont été collectionneuses, éditrices, commissaires d'exposition. Donc, tout ça a bien sûr alimenter leur réflexion.
On arrive maintenant à aujourd'hui. Marie, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on peut être optimiste et dire que les femmes photographes ont fini par trouver leur juste place? Est-ce qu'elles ont trouvé leur juste place? C'est un peu pour introduire la place peut-être d'un festival comme celui d'Ougat et de dire, est-ce qu'un festival comme celui de Béatrice Tupin, au regard de la situation des femmes photographes aujourd'hui, a encore un grand rôle à jouer.
Alors, moi, je ne voudrais pas trop m'avancer sur le terrain de la scène contemporaine, parce que je me considère plus comme une historienne et je n'ai peut-être pas suffisamment de recul pour vous dire si aujourd'hui elles ont trouvé leur juste place. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la question des stratégies séparatiste, c'est-à-dire est-ce qu'il est opportun, pertinent, judicieux de produire des expositions, par exemple, ou des ouvrages qui ne traitent que de la pratique des femmes photographes en l'occurrence, parce que on pourrait s'entendre reprocher le fait que on ramène les artistes ou les photographes à leur sexe, qu'on les ghettoïse, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit il y a une dizaine d'années. Voilà, on peut penser que c'est contre-productif en fait, hein, parce que en revalorisant le féminin, finalement on risque un peu de célébrer une forme de féminité naturalisée qui est discutable. En même temps, moi je crois que ce genre de démarche, ça a toujours existé en fait, et il faut le rappeler. Il y a une très grande photographe américaine qui s'appelait Frances Benjamin Johnston, qui était une pionnière du photojournalisme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui est venue à Paris en 1900, lors de l'exposition universelle, et qui a exposé une centaine de photographes, de consoeurs, photographes américaines. Et c'est une exposition parmi d'autres de femmes, de travaux de femmes photographes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et je pense que c'est vraiment important de rappeler que, voilà, il y a... Ça se défend parce que c'est comme d'une certaine manière en politique ou dans les conseils d'administration. Il faut peut-être passer par cette étape-là pour ensuite ne plus avoir à se poser ce genre de questions. En tout cas, moi, je crois que voilà, il revient bien sûr aux femmes de s'emparer de ces questions, de contrer les déséquilibres, de s'autoriser à avoir une ambition intellectuelle, une ambition esthétique, théorique, etc., pour élargir les récits, les histoires, mais pour éventuellement un petit peu aussi contrer les discours dominants, pour les déconstruire. Mais bien évidemment, ce n'est pas qu'une histoire de femmes, c'est l'histoire de tous. Et c'est important aussi de souligner, et ce que je crois par rapport à votre question enfin, au début, où vous me demandez qu'en est-il aujourd'hui, moi je vois depuis moins de 10 ans à quel point les choses ont déjà changé. Le corps social est beaucoup plus réceptif à ce genre de démarche, et je vois aussi, en fait, du côté peut-être aussi des générations les plus jeunes, à quel point c'est presque plus un sujet et à quel point c'est une évidence qu'il faut se poser les questions des identités, de la représentativité ou de la représentation de chacun pour la dépasser. Donc moi, je serais plutôt optimiste, mais là après, c'est Béatrice qui donnera son point de vue.
Ma dernière question, elle se retrouve un petit peu aussi dans toutes les autres, c'est d'aborder finalement la question délicate du genre. Donc, on parle dans le monde anglo-saxon du female ou woman gaze. Autrement dit, y aurait-il une photographie de femme qui aurait une singularité propre, ou la question du genre se pose-t-elle d'une autre manière selon vous ?
Bon, là aussi, je n'ai pas de réponse définitive. Ça, c'est un concept qui a été forgé il y a déjà près de 40 ans par une Américaine, Laura Mulvey, plutôt pour appréhender le cinéma et pour poser la question en fait de qui produit quoi, c'est-à-dire quelles images sont produites, par qui elles sont produites et qu'est-ce qu'elles montrent. Et elle avait démontré à quel point dans le cinéma, il y avait une forme de déséquilibre entre des représentations avec précisément un dispositif de voyeurisme où la femme telle qu'elle était représentée était souvent représentée érotisée, fétichisée, objectivée. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la photographie, dans les représentations les plus communes. Alors, pour répondre à cette question d'un regard féminin, je dirais, en fait, c'est vrai qu'il y a eu, à certaines périodes de l'histoire, des genres féminins et des genres masculins, qui résultent, en fait, des conditions sociales, politiques, culturelles, en fait, de production des images. À un moment donné, au XIXe siècle, par exemple, et en France en particulier, quand les femmes n'ont pas accès aux études supérieures, elles n'ont pas accès aux espaces publics, elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas la majorité juridique pour travailler. Enfin, il y a un ensemble de situations qui font que forcément, elles sont restreintes dans leur mobilité physique, mais même presque intellectuelle, et donc elles sont cantonnées ou elles se spécialisent dans certains genres par défaut, comme le portrait d'enfants, comme la reproduction d'œuvres d'art, comme les natures mortes, comme les scènes domestiques. L'autoportrait aussi, c'est un genre qu'on a peut-être pensé un peu plus au féminin. Et puis, à partir du moment où donc il y a cette émancipation possible, eh bien, on constate qu'elles ont elles vont conquérir tous les bastions et tous les genres, tous les territoires du masculin, que sont la photographie de voyage, la photographie ethnographique, le reportage, le sport, la science, la mode, la publicité, la guerre, le nu aussi, et la représentation du sexe. Donc, voilà, il y a eu des genres au féminin, et puis les femmes sont allées sur le territoire du masculin. Et à l'inverse, on a pu aussi considérer qu'il y avait des genres au masculin, et c'est quelque chose que moi j'avais beaucoup étudié en enseignant à l'école des Louvres pendant quelques années, le genre du nu, par exemple, le genre du reportage ou le genre de la photographie de paparazzi, qui est vraiment presque incarnée par la figure du chasseur prédateur muni de son objectif, qui est presque le prolongement de son phallus, pour dire les choses clairement. Ça aussi, c'est un genre qu'on pourrait qualifier de masculin. Mais il y a bien évidemment et heureusement des femmes photographes qui sont allées sur ces terrains-là. Et peut-être que vous connaissez le travail de Sophie Calle, par exemple, qui, à un moment donné, a engagé un enquêteur pour qu'il la suive, et elle a fait suivre cet enquêteur par sa propre mère. Donc elle a renversé le dispositif de filature ou de, voyeur, de voyeurisme. Je pense au travail de Sally Mann, l'américaine, ou de la française Bettina Reims, qui ont un travail autour du nu, de la sexualité, qui peuvent être dérangeants et qui pourraient être perçus comme un regard masculin. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, le regard féminin, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense qu'il y a autant de regards féminins qu'il y a d'individus dans leur pluralité. Mais il faut peut-être quand même avoir à l'esprit que voilà, le fait d'être une femme, c'est une expérience commune. C'est l'expérience de la violence, de la domination, des injustices. Et donc, beaucoup aussi l'ont dit, écrit, être femme photographe, ça, être femme permet, enfin, favorise en quelque sorte, tout ça c'est socialement construit, hein, mais une forme de compassion ou d'empathie. Et j'ai beaucoup vu, moi, à travers toutes les recherches menées, l'engagement des femmes auprès des plus fragiles, des invisibles, des sans-voix, des malmenés par la vie. Et j'ai constaté aussi à quel point les femmes photographes, et tout au long du XXe siècle, ont été très engagées dans un certain nombre de causes, soit des causes politiques, au moment des guerres et de la montée du fascisme, les causes féministes aussi, mais aujourd'hui, la cause écologiste. Et je pense que ce n'est pas un hasard d'une certaine manière, parce que ayant subi la condition des femmes, elles ont envie de faire évoluer les choses. Et il me semble, et ça Béatrice nous dira, hein, que beaucoup travaillent sur cette, à la fois sur la dimension très voyeuriste, prédatrice, voire impérialiste de la photographie, et remettent en question certains schémas comme la question de le rapport avec le modèle, la question de l'auteur, la verticalité. Et beaucoup travaillent à aussi produire des images de façon plus horizontale, plus collaborative, je dirais presque un peu plus inclusive ou généreuse.
Merci Marie. Bon, on pourrait évidemment passer un temps infini à parler de la place des femmes dans la photographie, mais je vais maintenant passer le relais à Marianne pour qu'elle nous parle du festival de Béatrice, en posant en liaison cette même question du genre à Béatrice.
Alors moi, comme je disais, ça va être sur la photo contemporaine et plus dans le photojournalisme de ce que j'ai pu remarquer. Il n'y a pas un regard véritablement de femme, personne n'est capable de reconnaître vraiment si c'est une femme ou un homme qui a fait la photo. Mais je pense, comme le disait Marie, que les hommes photographes généralement sexualisent beaucoup plus le corps de la femme, bon, ce qui est un peu lié à notre socialisation, ça c'est sûr. Et puis les hommes généralement, alors ma référence est un peu, par exemple, dans les manifestations, les hommes vont aller plus vers chercher la photo la plus spectaculaire, alors que la femme va plus aller faire le backstage, par exemple, d'une photo. Mais pour y être allé récemment, ces derniers temps, il y a des nouvelles photographes, des jeunes, et qui vont, elles aussi, devant, un peu à la recherche de cette image spectaculaire. Donc là, c'est en train de bouger un peu. Mais effectivement, je pense que dans un même lieu, un homme et une femme, comme disait Marie, ne sont pas forcément attirés par les mêmes choses, mais qu'il y a des hommes qui ont une sensibilité féminine et des femmes qui ont une sensibilité masculine. Donc, voilà, la question du genre, c'est vraiment, on ne peut pas dire noir et blanc, ça c'est sûr.
Alors Béatrice, à ton tour, tu viens de commencer. Ton festival commence demain matin, hein, j'espère que tout le monde est dans les starting blocks jusqu'au 8 août. Hein. Chacun de vous, j'espère, emmènera au moins une dizaine de personnes pour aller voir les photos de ces femmes photographes. Alors, tu vas nous parler de ton festival, et c'est vrai que Marie Robert nous parlait de cette discrimination positive qui est encore d'actualité, on pourrait dire, pour que des festivals de femmes soient exposés. Alors, mais on pourrait se poser la question, pourquoi toi, tu décides de faire un festival de femmes photographes? C'est ça qui nous intéresse. Et pourquoi à Houlgat? C'est la première question.
Alors, la première question, pourquoi à Houlgat? Parce que c'est un peu ma ville d'adoption. J'y suis depuis 8 ans maintenant, j'y habite en grande majorité. Enfin, avec la Covid, ça a été un peu compliqué, mon emploi du temps a été un petit peu chamboulé. mais l'idée, c'est d'y être à 70% de mon temps. Voilà, et je trouve que c'était un lieu... Moi, je suis tombée complètement amoureuse de ce village. C'est un village balnéaire. Et j'ai trouvé que le lieu était vraiment propice à mettre voilà, des structures parce que c'était, on va dire, un décor naturel adapté à un festival. Parce que j'ai vraiment l'habitude d'aller dans les festivals et je vois ce qui pouvait fonctionner ou pas. Et je trouvais que là, il y avait tous les éléments nécessaires pour faire un festival, un beau festival à Ouigat.
Parce que c'est un peu partout dans la ville, n'est-ce pas ?
C'est alors à travers, il y a un parcours dans la ville, c'est la ville, les jardins de la ville, la plage. Voilà, c'est un parcours qu'on peut faire à pied, accessible à tous, à toutes et tous. Voilà.
Alors, c'est la 4e édition. Quel a été le déclencheur ? Pourquoi un jour tu t'es dit je vais créer un festival de femmes photographes ?
Bon, j'avais l'idée de créer un festival depuis un petit moment. J'en avais parlé au journal qui n'était pas spécialement intéressé.
Journal, L'Obs ?
L'Obs, voilà. Le Nouvel Observateur devenu L'Obs depuis quelques années. Et puis, j'ai profité d'un départ, voilà, un licenciement. Je me suis proposée pour partir et dans l'idée de créer ce festival à Ouigat. Et ce festival de femmes photographes, il y a vraiment... Alors, je ne suis pas une militante au départ. Enfin, ce n'est pas du tout un acte militant au départ. C'est plutôt un mea culpa et une réparation, en fait. Parce que moi, en 24 ans à l'Obs, j'ai fait vraiment travailler très, très, très peu de femmes. Donc, c'est le gros mea culpa. Mais bon, alors déjà, c'était dans la fin des années 80. Faut vous dire que dans les journaux, il y avait que des hommes photographes salariés des journaux et aucune femme. Et puis des femmes qui, Marie va pas me contredire, je pense, mais les femmes à l'époque qui en vivaient en France, en tout cas de ce métier, je les ai répertoriées, que ce soit dans toutes les catégories, elles étaient 18 en tant que femmes. Donc bon, il y en avait pas. Et puis tout d'un coup, le numérique est arrivé, les femmes photographes se sont multipliées. Elles sont devenues majoritaires dans les écoles photo et pourtant, on ne les voit pas après. Elles sont un quart dans les agences, elles sont très peu dans les programmations des festivals, dans les galeries. Et je me suis dit, là, il y a un endroit, quelque chose qu'on n'a pas cerné et qu'il faudrait trouver. Alors, je n'ai pas encore tout trouvé, mais j'ai quelques idées. Et l'idée, c'était de faire un festival et pour les rendre visibles et les mettre à l'honneur. Mais dans l'idée aussi d'alerter aussi tout ce qui est agence photo ou agent galerie et tout ça, en disant attention, il y a des femmes photographes très talentueuses et on ne les voit pas. Et comme disait Marie dans la première partie, elles se sentent beaucoup moins légitimes, donc elles montrent moins leur travail, elles sont moins rentrées dedans et je pense qu'il faut les aider et les rendre visibles.
Il faut donc aller les chercher, c'est ce que tu fais, être proactif.
Voilà, alors là, du coup, la sélection que je fais lors du festival, contrairement aux autres, les autres reçoivent des dossiers, font des appels à candidature. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire parce que je sais que, comme je disais, elles sont plutôt timides, elles ne se sentent pas légitimes. Donc, avec ma petite équipe, avec Anne Degout, on va chercher, on sait quel sujet on voudrait exposer. Et là, on regarde qui a fait. Et dans la programmation dont je vous parlais, dans ma petite équipe, j'ai aussi Géraldine Lafont qui m'a montré le travail formidable de Germaine Chomel que je ne connaissais pas. J'ai un peu honte de lire, mais je ne connaissais pas. Donc voilà, on va vraiment chercher, on va les chercher. Voilà la différence. Et je pense que, parce qu'on parle de quotas, alors tout le monde hurle auprès des quotas, mais quand on dit à quotas, ça ne veut pas dire mettre des mauvaises photographes. Enfin, voilà. Et du coup, là, je pense que, voilà, il faut aller les chercher, ces sujets et ces femmes photographes talentueuses.
Alors, on va décrypter un petit peu ton festival maintenant. Je crois que tu as identifié 6 lignes forces de ce festival, Les Femmes s'exposent. Alors, je te laisse dérouler les 6 points qui peuvent attirer le public.
Alors, c'est un festival international. Alors, vraiment beaucoup cette année, mais je vais expliquer pourquoi. Au départ, il y avait toujours une photographe à l'international ou deux, mais jamais plus, parce que le but, ce que je désire, moi, c'est que les photographes puissent venir pendant les journées presse pour montrer leur travail, et que je suis un festival qui a quand même un petit budget, et ça voudrait dire donc faire venir, payer les billets d'avion et tout ça. Donc, je ne suis pas encore assez solide pour ça. Mais cette année, comme je vous disais l'autre fois, ce festival, c'est quand même un festival qui montre des expositions qui n'ont jamais été vues ailleurs. C'est une particularité, bon, d'autres festivals le font aussi. Mis à part pour celle à qui je rends hommage, évidemment, parce que c'est Faudrard qui a déjà eu des expositions. Donc voilà, et cette année, pour avoir des sujets qui n'ont jamais été vus, c'est des sujets qui ont été donc récemment faits. Et en France, il s'est passé qu'avec la Covid, très très peu de Françaises ont travaillé sur des sujets. Celles qui ont pu partir en reportage, elles sont vraiment très, très minoritaires, je peux les compter même sur les doigts d'une main. Et c'est des photographes que j'avais déjà exposés, donc il était hors de question de réexposer les mêmes. Donc on a cherché à l'international, et effectivement, nous avons cette année 7 Françaises et 6 photographes à l'international, ce qui est beaucoup. Voilà.
Alors les nationalités, bolivienne, espagnole.
Là, on a 2 polonaises, une américaine et une taïwanaise. Voilà. Et les autres sont françaises, mais dont des françaises, 2 qui vivent à l'étranger. Voilà. Donc ça, c'est un festival international. Donc ça, je suis même fière que ça prend cette progression. Voilà. Donc comme je disais, dans l'autre, c'est des photos qui n'ont jamais été vues. C'est vraiment la première fois que ces photos sont vues dans un festival.
Exclusivité, donc, pour...
Comment ? Oui.
Et donc, l'exclusivité pour les gens qui vont découvrir.
Voilà. C'est vraiment la condition que j'impose aux photographes, que ce n'ait pas été exposé dans un festival. Ça peut l'être dans une galerie, mais pas dans un festival. Et puis rendre hommage. Donc, j'ai eu Lee Miller, rendu hommage à Gilles Friedman. Et cette année, c'est Germaine Chomel. Et quand je dis rendre hommage, on pourrait même dire réhabilitation, plus exactement. Donc là, j'avoue, comme je l'ai dit, j'ai découvert cette femme photographe, Germaine Chomel, qui est née en 1890 à peu près, je crois, qui était photographe dans les années... Enfin, qui avait sa carte de photographe, j'ai retrouvé, enfin, grâce à sa petite fille, en 1932. Et j'ai choisi la période de l'occupation, où là, elle était considérée comme photographe de guerre et elle a photographié l'occupation. Et on va voir des clichés assez incroyables. Et j'ai découvert qu'elle avait une façon de photographier très moderne aussi, des points de vue assez incroyables. Donc là, vraiment, je suis très heureuse de pouvoir faire découvrir cette photographe que j'ai découverte moi-même, mais que Marie connaissait évidemment, Marie-Robert connaissait. Voilà. Et puis l'autre point important du festival, c'est un festival que je vais dire populaire dans le sens noble du terme. C'est l'idée de, bon, le fait qu'il soit gratuit déjà, c'est à l'extérieur, gratuit, et pour moi c'est démocratiser l'accès à la culture. Parce que le monde de la photo est assez fermé et voilà, il y a des festivals bon, qui sont obligés de faire payer mais où c'est très cher, où les gens ne rentreront jamais. Et il y a plein de gens qui ne vont jamais rentrer dans une galerie pour aller voir des photos parce que ce n'est pas leur monde. Et là, ils arrivent au GAC par hasard, pas forcément pour le festival, sur la plage, se baladant autour de l'église et tout, et ils vont découvrir des sujets photographiques.
En famille.
En famille. Donc voilà, et l'idée, et on a beaucoup travaillé et vraiment... énormément cette année, je vais rendre hommage à Marie-Hélène Cato qui refait et qui relie tout ce qui est des légendes et qui les rend intéressantes et instructives. Voilà, on n'est pas dans des légendes descriptives sauf pour une seule expo. C'est vraiment, y a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de recherches et ça apprend beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses que je trouve importantes. Et dans les 15 séries, donc il y en a 15, il y a 13 femmes photographes, plus de projets, je développerai plus tard, c'est des écritures photographiques très différentes les unes des autres. On passe de l'artistique au portrait, au reportage, et puis des façons de photographier nouvelles ou pas. Et je me dis, bon, évidemment que les gens, quand ils viennent au festival, ils ne vont pas aimer particulièrement les 15 expositions, mais tout le monde pourra y trouver... du bonheur dans une ou deux ou une autre exposition.
Et le maître mot, c'est la diversité, c'est-à-dire diversité des thèmes, diversité des écritures photographiques.
Et sans thème particulier. Mais on verra, comme disait Marie, qu'il y a quand même souvent, sur le réchauffement climatique, des choses comme ça qui ressortent dans les sujets. Voilà.
Alors, quels sont justement les principaux sujets ?
Alors, je vais les énumérer. Alors, j'ai déjà parlé de l'hommage de Germaine Chomel, donc la France occupée. Après, on a je développerai plus tard, mais Anne-Charlotte qui a travaillé sur les épis de fêtage à Ouilgat. On a la migration climatique au Guatemala. On a le Tour de France. La première année, j'avais déjà mis une photographe sportive et c'est très important parce qu'elles ne sont que 2 à faire le Tour de France. Elles sont très, très peu dans le sport. Donc, je trouve vraiment chouette de la mettre à l'honneur, elle. Et puis, on a les manifestations de Hong Kong, mais je reviendrai plus tard. Les travelers donc un peuple nomade en Angleterre et en Irlande, une portraitiste qui photographie et des gens connus et des inconnus, les marais de Mésopotamie côté irakien, le dérèglement climatique en Alaska, des créatures marines dans le triangle de corail, et puis un regard sur la Bolivie fait par une photographe bolivienne. Alors là, je ne vous ai pas tout cité les noms parce que ça prendrait du temps, mais voilà, c'est ça, plus les deux projets pédagogiques. Voilà.
On va s'arrêter dans quelques minutes sur justement la série de Hong Kong, qui s'intitule « Ils ne peuvent pas nous tuer tous nous tuer plutôt », voilà, qui traite des manifestations à Hong Kong que tout le monde connaît. Alors, c'est important de noter là-dessus que cette série sera exposée à nouveau lors du Forum mondial Normandie pour la paix, hein, qui a été décalé de juin à fin septembre, 30 septembre, 1er octobre. Hein, donc, cette série, donc Béatrice sera à nouveau présente lors de ce forum qui se tiendra à Caen.
Voilà. En fait, le Forum mondial pour la paix, qui est un forum international qui a été monté par Hervé Morin, et il y a François-Xavier Priolo qui s'en occupe aussi, qui le dirige, on a démarré exactement au même moment, il y a 4 ans, et on a décidé de faire un partenariat dès le début. Ils exposent une de mes photographes, donc il y a un rapport évidemment avec les conflits, donc je leur fais toujours des propositions, et ils ont choisi, et je suis très contente, le travail de Charlène Flores, donc sur Hong Kong. Et Charlène Flores, c'est une photographe française qui est partie à Hong Kong au début de ce mouvement. Donc, le sujet, c'est sur donc cette mobilisation contre le projet de loi d'extradition vers la Chine et cette révolution qui s'appelle la révolution des parapluies. Une révolution très jeune, avec des jeunes. Et Charlène est arrivée et s'est installée à Hong Kong à ce moment-là. Elle était enceinte, et je reviendrai plus tard là-dessus, vraiment de mi-mois, elle courait dans les manifestations pour les faire. Bon, elle est sinophone, hein, donc elle parle totalement chinois, et donc ce qui était plus facile pour elle. Et voilà, et depuis, donc il y a eu quand même 2 millions de personnes dans les rues, et en fait, normalement, ils avaient arrêté cette loi, ce projet de loi, et puis suite à la Covid, Pékin en a profité pour éditer une loi de sécurité nationale. Et donc, les jeunes ont à nouveau manifesté. Ils ont pris, voilà, ils n'avaient pas le droit, mais ils l'ont fait. Et depuis, les photos de Charlène sont totalement interdites à Hong Kong. Voilà, et la plupart des jeunes qu'elle avait photographiés. Bon, vraiment, l'expo, c'est le début du mouvement jusqu'à maintenant. Et la plupart des jeunes qui sont à la tête du mouvement La révolution des parapluies sont en prison actuellement. Voilà.
Tu as aussi une invitée d'honneur cette année, comme alors, chaque année.
Voilà. Chaque année, j'ai une marraine. Cette année, j'appellerai plus Irène Jonas une invitée d'honneur. Les marraines, ce qui est important, c'est déjà au départ, ben, quand on crée un festival, c'est de rendre crédible le festival. Hein, d'avoir des marraines, des photographes prestigieuses, ben, ça m'a énormément aidée. Elles ont dit oui immédiatement. Donc ça a été vraiment l'énorme coup de pouce. Et cette année, j'avais vraiment envie de mettre Irène Jonas à l'honneur, qui est sociologue et photographe, et qui est très engagée aussi sur la place des femmes dans la photo, et qui fait un travail, ça va être ma photographe artistique cette année, qui fait un travail en noir et blanc, qu'elle peint à l'acrylique ensuite, et elle est restée confinée dans un petit village, pas normand, mais breton. Et voilà, c'est tout sur ce confinement. Enfin, c'est très joli, c'est très poétique. Voilà, je suis ravie de l'avoir cette année.
Tu as proposé aussi à une autre femme photographe d'être en résidence.
Voilà, alors chaque année, je fais une résidence, c'est-à-dire que j'ai une photographe qui vient faire au moins 2 mois à Oulgat, qui passe 2 mois à Oulgat. Ça peut être sectionné ou d'affilée. Bon, elles ont toutes sectionné pour travailler sur des sujets oulgatais. Et le maire d'Oulgat, Olivier Collin, m'avait dit « Oh, bah, ça serait bien de faire quelque chose sur les épis de fêtage. » Bon, je ne voyais pas trop ce que c'était au départ. J'ai cherché. Et puis, je me suis dit « Ouais, bah, ça peut être vraiment chouette. » J'ai cherché et trouvé une photographe normande. Normalement, les résidences, elles ont carte blanche. C'est-à-dire qu'elles choisissent leur sujet. Donc là, je l'ai un peu imposé. Mais elle a tout de suite totalement adhéré. Elle a fait beaucoup de recherches historiques dessus. Et c'était formidable. Et elle voulait pas faire un catalogue de photos. Voilà, elle a dit je veux faire autre chose que des photos d'épis de fêtage. Je fais pas un catalogue. Donc elle a superposé 2 photos. Elle a fait, enfin vous verrez, c'est assez. Et elle a travaillé avec son drone. elle a passé son diplôme, du coup, qu'elle avait passé avant, c'est pour ça que je savais qu'elle savait faire avec le drone. Et donc, elle est allée vraiment devant les épis de faîtage. Et après, elle est montée à 120 mètres de haut avec son drone pour photographier le lieu où les épis de faîtage se trouvent. Donc, il y a deux photos superposées.
Là, on va se régaler. Alors, il faut savoir que Béatrice, elle est donc directrice, elle a initié ce magnifique festival, mais elle fait aussi un travail de terrain tout au long de l'année à Oulgat. Hein. Alors, tu vas nous parler des projets avec les migrants et les jeunes qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance, et puis de projets pédagogiques avec l'école.
Alors, il y a 4 ans, donc, j'ai rencontré la directrice du CPCV, Isabelle Jeanget, qui m'a dit, oh, ben, moi, j'ai des jeunes. Je suis allée les rencontrer, donc c'est des jeunes, ils sont 7 à être placés à Oulgat par l'aide sociale à l'enfance. Ça tourne, hein, c'est pas les mêmes depuis 4 ans. Ils sont placés là, le temps de se reconstruire dans un lieu de vie avec un couple d'éducateurs formidables. Et puis j'ai réussi, alors j'ai acheté des boîtiers la première année, on a travaillé sur leur mémoire. Et puis on évolue chaque année, et cette année, la photographe Delphine Blast est venue les faire travailler sur beaucoup de choses, mais aussi sur le portrait. Et ils ont travaillé sur la filiation père et fille. Et ils ont photographié des Oulgatais avec leurs filles. Donc, ils sont allés chez les gens. Ils les ont rencontrés. Et donc, c'était vraiment un lien voilà, qui s'est fait entre ces jeunes qui ne sont pas d'Oulgat au départ, mais qui s'implantent là, et les Oulgatais qui vivent là. Et ça s'est fait évidemment sur plusieurs mois. Et même avec la Covid, elle a pu travailler. Bon, déjà, grâce à la carte de presse, elle a pu bouger. Et voilà. Et le deuxième gros projet qu'on a monté là cette année, on l'avait commencé les premières années, mais avec moins d'ampleur. C'est un sujet vraiment, c'est des ateliers photo dans l'école primaire d'Oulgat. Enfin, ça allait de la maternelle au CN2. Et on a fait intervenir avec Anne de Gourou énormément d'intervenantes, et on leur a appris à développer avec une méthode ancienne de cyanotype, à faire le portrait, le drone, de travailler avec un drone. Enfin, ils ont eu aussi l'histoire de la photo aérienne, l'histoire de la photo, les problèmes, les soucis avec les difficultés avec les réseaux sociaux et l'image de ses enfants. Enfin voilà, c'est un projet qui, là, il nous reste encore 2 ateliers, dont la visite des expositions. Et c'est vraiment une implantation, et on s'est fait avec les enseignants qui nous ont énormément aidés, parce qu'ils ont préparé vraiment nos ateliers avant. Ils ont participé pendant, et ils reviennent sur les ateliers après. Enfin voilà, c'est vraiment un travail formidable, et qui s'est déroulé sur plusieurs mois et qui n'est toujours pas fini. Et tout ça avec l'aide, je le dis quand même, de l'ADRAC, et pour les jeunes du CPCV, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, pardon, de l'ADRAC et de la Fondation Orange. Voilà.
Grâce à qui. Important de citer les partenaires, tu en as d'ailleurs quelques-uns, publics et privés, pour le festival. Voilà, j'ai vu d'autres projets, c'est important, la mairie, la région.
La DRAC, la mairie, des privés, les fonds Régnier, la Fondation Orange. Enfin bon, j'ai été quand même très aidée dès le départ, bon, avec des budgets qui ne sont pas énormes, mais j'ai fait un festival avec un petit budget. Voilà, ça c'est.
Donc donner de la visibilité donc aux femmes photographes, mais aussi transmettre, hein, grâce à tes projets pédagogiques. Voilà, je trouve que ça se complète bien. On va ouvrir aux questions des participants. Juste vous dire également. Donc, vous rappelez les dates, hein, 1er juin, 8 août, c'est important. Vous dire que si vous venez à Oulgat en train, vous aurez le plaisir, Gare Saint-Lazare, de voir fin juin, il faut un petit peu de temps pour installer tout ça, sur le parvis, déjà des séries de photos, hein, des expositions qu'on verra à Oulgat. Voilà, donc Gare Saint-Lazare, si vous prenez le train.
Mais quand même, je voudrais revenir sur un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est que tu dis s'il y a-t-il des atouts à être une femme photographe. Et là, je vais revenir là-dessus pour 2 choses. Alors, depuis que j'ai fait le festival, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai questionné beaucoup de femmes photographes, elles disent que c'est souvent un atout, évidemment, parce qu'elles ont accès à des milieux où les hommes n'ont pas accès. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Et un deuxième point que je voulais aborder, c'est suite à la Covid, quand même pour les femmes photographes, mères de famille, ça a été un calvaire. Parce que bon, alors déjà pour les familles monoparentales, elles n'avaient pas d'autre choix que de s'occuper des enfants, et pour les familles plus classiques où il y avait un père ou un compagnon, c'était souvent le père ou le compagnon qui était salarié, vu que les femmes photographes sont très très rarement salariées, et elles ont été obligées de s'occuper vraiment de la vie familiale et de l'école pendant des mois et des mois. Donc elles se sont vraiment mises à l'écart. Et ça a été un peu la double peine. Alors, dans un milieu déjà où la crise est très importante, hein, que ce soit homme ou femme photographe, voilà. Mais il faut vous dire que quand même, les femmes photographes gagnent moins d'argent que les hommes photographes. Alors, ce n'est pas qu'elles sont moins payées, c'est qu'elles ont beaucoup moins de commandes. Et donc, voilà, à cause de gens comme moi qui ont passé très peu de commandes voilà, dans les services photos.
Oui, mais tu fais réparation, là. Donc,
réparation.
Il faut quand même dire, puisque tu parles du Covid, qu'entre les deux périodes de confinement, tu as réussi à tenir ton festival.
Oui, alors l'année dernière…
La édition a eu lieu.
L'année dernière, on l'a décalé de 2 mois et on l'a raccourci. Et puis cette année, bah, par chance, il est à l'extérieur. Donc, voilà, il y avait juste le problème si la plage était condamnée, bon, ce qui n'est pas le cas, heureusement. Mais on a réussi à le maintenir. On est plusieurs festivals comme l'Agassi ou Vendôme, où c'est à l'extérieur. Et on a la chance d'avoir ça, justement, qui nous permet de ne pas avoir dû annuler. Voilà.
Merci Béatrice, on a 25 minutes. Voilà, la parole est à vous. Vous ouvrez votre micro si vous souhaitez poser une question à Marie-Robert qui est là et à Béatrice qui est là également.
Oui, moi je veux bien poser une question un peu dans la continuité de ce que veut dire Madame Tupin, puisqu'évidemment la question elle est presque dramatique, hein, puisqu'il s'agit dans vos projets de faire un projet de rédemption. Mais je me demandais si vous pouviez avec nous analyser les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas choisi de femme, comme vous le remarquiez, puisqu'il y en a tant que ça. Ce serait un moyen de comprendre peut-être ce fameux plafond de verre et la raison pour laquelle je serais moins… Est-ce que vous avez fait une introspection que vous pourriez nous faire partager?
Bien sûr. Alors, comme je l'ai expliqué, au départ, déjà, il y avait moins de femmes photographes quand moi, je suis rentrée au service photo du Nouvel Observateur. Et puis après… Les photographes salariés, ils ont disparu pratiquement de tous les journaux pour des raisons de finances. On faisait appel à des photographes pigistes. Et puis, donc, on a commencé à faire travailler des photographes qui travaillaient en binôme avec des journalistes. Donc, on choisissait un photographe. Alors, c'était souvent un photographe à l'époque. Il travaillait en binôme avec un journaliste. Et ce binôme, après, à chaque fois, les journalistes, hommes ou femmes, demandaient à travailler avec le même photographe parce qu'ils savaient que ça fonctionnait bien.
Et c'est là, vous ne choisissiez pas le photographe, en fait.
Moi, je les choisissais au départ, mais après, ils me disaient « Oh, j'ai travaillé avec un tel, j'ai adoré, c'est simple, j'ai rien à lui expliquer. » Et là, j'aurais dû mettre le poing sur la table et dire « Bon, moi, je te propose quelqu'un d'autre qui va t'apporter quelque chose. » Et je n'ai pas osé non plus, quand elles sont arrivées, les femmes sur le terrain, je les ai fait très peu travailler, parce que c'était prendre un risque aussi de faire travailler des nouvelles personnes. Et s'il y avait un échec dans la production, comme ça peut arriver… J'étais la seule responsable. Donc, la chose, c'est que vraiment, j'ai fait aussi, je me suis rendu compte, par flemme, par facilité, de dire, OK, ah, bah, la journaliste, tel photographe, hop, j'appelle, c'est simple, on y va. Et voilà. Et
ça, évidemment, le genre n'est jamais intervenu dans votre choix, d'après ce que vous dites. Le fait qu'elles étaient des femmes, ça n'a jamais été pour vous un souci, ou au contraire, un plus, ça ne rentrait pas en considération.
Alors pour moi, et maintenant j'ai vraiment changé d'optique là-dessus, c'était un moins, c'est-à-dire que quand il y avait par exemple des reportages à faire en banlieue où ça pétait, je ne voulais pas envoyer les femmes, ça c'est sûr et certain. C'est une erreur totale de ma part. Elles préparent beaucoup plus que les hommes leur reportage, il n'y a pas plus de risque ni rien. Ça c'est vraiment dans l'idée aussi de les envoyer dans des conflits, je me disais, ben non, j'envoie pas les femmes, c'est trop. Voilà, ce côté un peu maternel qui était complètement ridicule, totalement ridicule. Et il faut savoir aussi que les journalistes, quand ils partent avec des photographes, le photographe, il sert aussi à d'autres choses. Il peut être fixeur, garde du corps, chauffeur. Voilà. Et pour la petite histoire, mais je vais être brève, mais un photographe, une fois, me dit, oh là là, je vais dans les quartiers nord de Marseille, trouve-moi un bon photographe. Alors déjà, un bon photographe m'énerve parce que non, évidemment, je vais envoyer. Et je lui dis, bah, OK, je te trouve, y a Johan. Alors, ah ouais, super, est-ce qu'il peut venir me chercher? Mais en fait, Johan est une femme, hein, c'est 2 NE. Et je lui dis, c'est une femme. Ah ouais, non, mais là, quand même, c'est chaud. Je dis, non, mais Johan, elle habite dans les quartiers nord, elle travaille dessus depuis des années et tout. Voilà, y a, et quelquefois, elle lasse, et quand il y a trop de boulot, trop de commandes, et j'ai choisi la facilité, et là, je m'en veux. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais bouger les choses.
Oui, c'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui, tout à l'heure, en disant, c'est bien parce que les femmes peuvent aller partout. J'avoue que j'étais un peu surprise, parce que c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas l'idée qu'on a a priori, quand même.
Non, alors après, dans les autres conflits, elles sont quand même moins nombreuses. Comme je disais, elles préparent énormément leur reportage. Bon, il y a toujours le problème de la sexualité, hein, des agressions sexuelles possibles, mais elles préparent et elles se mettent. Voilà la différence entre un homme et une femme. Elles se mettent vraiment, elles ne cherchent jamais la photo spectaculaire, donc elles ne vont pas se mettre en danger.
Mais peut demander à Marie peut-être de compléter.
Oui, bien sûr.
Et Marie-Robert, si vous avez, par rapport à cette question, des éléments.
Je vais dans le sens de Béatrice, mais c'est vrai que, par exemple, on a pu faire émerger des dizaines de noms de femmes photographes qui ont couvert les conflits de tout le XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la guerre civile espagnole, elles ont été relativement nombreuses aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, autant du côté du front russe, du côté des nazis, mais aussi des alliés. Il y a eu des grandes photographes sur la guerre du Vietnam, Dickie Chappelle justement qui est morte sous les bombes. Et puis en fait, voilà, elles ont couvert tous les conflits. Alors effectivement, on n'a pas retenu leur nom, mais là aussi, c'est impressionnant. Alors certaines se sont mises en danger. Gerda Taro, qui était la compagne de Robert Capa et qui justement a été oubliée parce que finalement ces images ont été attribuées à ce grand photo-reporter. Elle aussi, elle est morte sur le terrain, écrasée par un tank, mais effectivement, comme dit Béatrice, elles sont très nombreuses à être parties et avoir assuré leur arrière et avoir préparé le terrain et avoir fait un travail admirable. Hein.
Merci. Peut-être une autre question.
Béatrice, tu nous avais dit aussi qu'il y avait quand même des journaux qui essayaient de respecter une forme de parité. Est-ce que tu peux nous dire les journaux en question ?
Oh là là, ça me fait mal de les citer, mais oui.
On peut le dire nous si tu veux.
Fais-toi violence.
Je sais que Nicolas Jiménez, il fait très attention au monde, à ce qui est homme et des femmes. Après, lui, il a beaucoup... reportage à l'étranger et aux États-Unis, il y a de quoi faire. Enfin voilà. Après, au Figaro Magazine, je sais que Cyril Drouet aussi fait attention. Après, je trouve que du coup, dans certains journaux, alors je parle pas du Monde, ils font appel à des femmes photographes, mais que ça tourne quand même avec les mêmes. Voilà, il y a quand même. Alors c'est pas de l'entre-soi, mais moi en tant que chef du service photo, je peux vous dire que quand on sait qu'on commande un reportage et on sait qu'il va être bon, on y va les yeux fermés, voilà. Et je pense que tous les chefs de service de photo devraient prendre des risques. Alors, je dis ça, je ne les ai jamais pris, hein. Mais d'aller envoyer faire des sujets, même touchy un peu, et avec des photographes avec qui ils n'ont jamais travaillé. Des
femmes avec... Oui, mais c'est terrible ce que vous dites, parce que vous nous expliquez le choix des photographes toujours en creux, c'est-à-dire parce qu'il faut, c'est la discrimination positive. Jamais c'est parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont meilleures, parce qu'elles peuvent entrer là où elles ne peuvent pas entrer, etc. C'est...
Ah si, alors moi je dois mal m'exprimer, mais elles sont effectivement, quand on me dit on ne va jamais faire de quotas parce qu'on ne va pas prendre des mauvaises choses, non, elles sont merveilleuses et très talentueuses, et je pense qu'effectivement elles sont aussi bonnes et elles peuvent rentrer dans des endroits plus particuliers là où les hommes n'iraient pas, et c'est un avantage, et on ne prend pas... Et moi, mon sujet, c'était plus de vous dire que quand on a des habitudes dans une rédaction, c'est dur de les quitter et de faire appel à des nouveaux ou des nouvelles. C'est compliqué aussi, et parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Mais il faut prendre le risque. Et mon festival, c'est pour alerter tous ces gens dans les services photo, même de la télé, tout ça. Attention, il y a des femmes tellement talentueuses. Ne les oublions pas et il faut les mettre à l'honneur. Voilà, les rendre visibles.
Une autre question peut-être sur... pour permettre à d'autres de poser d'autres... Non ?
Et je rajouterai un petit truc, c'est dans les festivals, donc il y a beaucoup moins de femmes qui sont exposées, il y a quand même une bonne raison, c'est parce que des gens comme moi ne leur passent pas de commande, et du coup, elles n'ont pas de sujet à montrer. Parce que maintenant, pour monter un sujet, pour avoir des photos, on le fait quand il y a des commandes. Hein. Financièrement, c'est tellement compliqué au niveau des assurances. Donc, les femmes qu'on voit dans les festivals, c'est des femmes qui ont eu des commandes par les journaux, hein, que ce soit Paris Match, Elle, Figaro Magazine. Je parle des Françaises en général.
C'est quand même pas faire du cinéma que faire de la photo. C'est pas un investissement financier terrible, quand même.
Non.
Il faut partir sur place.
il faut quand même partir à l'étranger. Enfin,
ah, pour les reportages, mais il n'y a pas que des photos de reportage. Enfin, on ne parle que des photos de reportage.
On parle de photojournalisme.
Pardon.
Là, je parlais plus des photojournalistes. Après, d'accord, dans les portraitistes, effectivement, ce n'est pas le même domaine. Mais je vous dis, attention, on a des habitudes et voilà, il faut lutter contre ça. Il faut se dire qu'une commande passée à un photographe, ça veut dire que c'est une commande qui n'est pas passée aux autres photographes, et qu'il y a de moins en moins de commandes, qu'il y a de moins en moins de portfolios, et que voilà, ça devient une misère pour les photographes. Donc, personne ne va aller faire des photos des sujets à l'étranger ou même en France, oui, investir de l'argent. C'est compliqué. Ils n'en gagnent pas déjà.
Hein? On reste positif.
Bah, c'est quand même un secteur qui a connu...
Oui, qui ne va pas bien, comme la presse ne va pas bien non plus, oui.
La fin de la presse papier, enfin, c'est beaucoup de choses, l'arrivée du numérique.
Est-ce que tu peux dire, par exemple, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de le dire, un budget, par exemple, le budget du service photo au point, au Nouvel Obs, excuse-moi, pardon. non, mais c'était quoi par rapport au budget du global du journal?
C'était le troisième budget, voilà. Ouais. Voilà, et bon, évidemment, il y a tout ce qui est papier pour les journaux et tout, mais c'était le troisième budget. Oui, mais c'est
beaucoup. C'est énorme.
Derrière la masse, après la masse salariale, mais c'est un énorme budget. Donc,
oui.
Voilà. Donc, c'est sûr que les journaux, après, ont tendance à nous mettre des pressions aussi pour qu'on trouve des photos libres de droit. Quand je dis libres de droit, c'est pour ne pas rémunérer la personne qui a fait tes photos. Enfin, voilà. Après, voilà, la fin des journaux papier qui arrive de plus en plus, le numérique ou les photographes. Il n'y a pas eu de modèle économique avec le numérique, en fait. Et les merci photos, bah, elles sont vendues entre 3 euros et parfois alors 100 au maximum. Voilà, donc ça, c'est sûr que... Il va falloir que les photographes se réinventent, hommes ou femmes, il va falloir qu'ils se réinventent. Et certains l'ont bien compris et commencent beaucoup à filmer en plus de photographier.
Moi, si je pouvais juste raconter une petite anecdote, moi j'ai fait un séminaire, je suis chercheur, il y a des années sur la question des photographes de presse, et on avait rencontré des journalistes du Monde, des rédacteurs du Monde, qui nous disaient que quand ils faisaient des enquêtes, ils demandaient aux gens qu'est-ce que vous pensez, alors, mais c'était quand même il y a plus de 20 ans, hein. Ils demandaient qu'est-ce que vous pensez des journaux, des photos du Monde, et que la plupart des gens n'avaient pas remarqué qu'il y avait des photos dans le Monde.
Il y en avait très peu.
Oui, il y a 20 ans.
Alors, il y en avait beaucoup, oui, contrairement. Voilà, ben on continue à dire la même chose. Il y en avait énormément. Nous avions donc fait des statistiques. On avait été même tous sidérés parce qu'il y avait un gros budget photographe. Il y avait beaucoup de photos au Monde. Et les gens avaient le sentiment que le Monde était un journal sans photos. C'est assez marrant.
Bon, par contre, le Nouvel Observateur, au départ, avait pas de photos. Et après, très peu de photos. Et après, de plus en plus, et les dernières années, on avait rajouté des portfolios. Il y en avait plein. Mais il faut vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, dans un journal qui est tiré à 500 000 exemplaires comme l'Obs, par exemple, une photo, une vignette qui est un petit rond, ça coûte 160 euros à chaque vignette, et une pleine page, par exemple, va être 800, une couverture 1100 euros. Donc, multiplié par le nombre de photos dans
un journal. Un énorme budget.
Madame Leblanc, c'est ça, qui souhaite compléter ?
Peut-être intervenir, manifestement.
Oui, allez-y.
Pardon ?
Vous voulez prendre la parole ?
Ah pardon, non, c'est parce que je suis sur l'ordinateur de ma fille, donc Leblanc, ce n'est pas mon nom. Mais, oui, non, je dis, moi je travaille dans le domaine de l'art, et le budget photo pour faire un livre, pour faire quoi que ce soit, c'est le plus gros budget, en fait.
Ouais. C'est énorme.
Donc oui, j'approuve totalement Voilà. Mais j'entends ce que Béatrice dit, que le numérique a totalement bouleversé les choses et que maintenant les photographes sont très mal rémunérés pour leurs photos. Et c'est assez inquiétant, je pense.
En même temps, on avait beaucoup dit que les photographes professionnels allaient disparaître à cause du numérique, puisque tout le monde pouvait venir faire des photos de bonne qualité, et c'est pas ce qui s'est passé. Ça, c'est le côté positif. Les photographes sont toujours là. Donc, au labo, on en a deux photographes professionnels, plus celui qui sont à Libé. Il y a quand même des gens qui vivent de leurs photos, quoi, alors qu'on pensait que le numérique et le smartphone allaient faire disparaître les photographes professionnels.
Ouais, mais il y en a quand même de moins en moins, et toujours les mêmes. voilà, ceux qui s'en sortent, voilà, je trouve, il y en a beaucoup, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui font vraiment des angles journalistiques dans leur sujet. Et je trouve que là, ils font une grosse différence. La différence, elle est là. Voilà.
Et alors, moi, j'avais une autre question qui a déjà été abordée. J'ai travaillé pendant assez longtemps au Proche-Orient. Et c'est vrai que les femmes, on a accès dans certaines sociétés à tout un tas de personnes que les hommes ne verront jamais. Et quelle est la part du travail sur ce sujet de femmes photographes? Alors justement, dans les invités cette année, il y a le sujet sur le sud de l'Irak, il y a une société partagée. Et...
Alors là, elle raconte, c'est Emilienne Malfatto. J'en profite pour dire qu'elle vient aussi d'avoir le prix du premier roman du prix Goncourt. Hein, donc, elles ont toutes des choses importantes. Et elle habite donc, elle y habite la plupart de son temps, côté irakien. Et c'est un travail de 5 ans sur la Mésopotamie. Et elle raconte tout. Hein, en tant qu'étrangère, elles ont accès aussi au monde des hommes. Là où les femmes ne rentrent pas, elles ont accès. Et elles ont un autre accès. Par exemple, on verra sur la plage une photo qui est assez incroyable où elle a réussi à photographier une femme irakienne en train de pêcher et qui n'est pas voilée, qui monte, qui est souriante. Et elle s'est dit, oh là, mais jamais elle va vouloir. Et puis, il y a des petits miracles qui se font comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était ça votre question, Anne.
Non, oui, c'était sur cet accès à une société plus féminine auxquels les hommes n'ont pas accès. Et effectivement, il y a un livre de référence sur les Arabes des Marais, alors qui date des années 50 du XXe siècle, où il n'y a quasiment aucune femme, parce que ils ne les voyaient pas.
Et elle racontait qu'en tant qu'étrangère, elles ne sont pas considérées comme...
Et en tant qu'étrangère, oui, on passe du monde des hommes et au monde des femmes, tout à fait. Ouais.
Voilà. Marie, je ne sais pas, Marie, Robert, tu veux
dire comment? Une question encore? On a 5 minutes. Je vois que Livaro.
J'ai cru comprendre que Monsieur Février est photographe. Arnaud Février, vous avez peut-être envie de vous exprimer?
Oui, je vais m'exprimer de manière très courte. Merci beaucoup. En tout cas, c'était éminemment intéressant. J'ai votre livre, Marie-Robert. Il est dans la bibliothèque. Il est juste là. Je suis le secrétaire général de l'Union des photographes professionnels, que je pense que, évidemment, Béatrice et Marie connaissent. C'était plus une invitation à l'UPP. On est 1000 adhérents. On a seulement 20% de femmes photographes. Et c'est éminemment important aussi qu'elle puisse s'emparer de tout ce côté aussi représentation et travailler, je dirais, à l'intérieur des corps ministériels. Nous, on intervient régulièrement, on a des sièges au Conseil supérieur de la propriété artistique et intellectuelle, on est en constante relation avec le ministère de la Culture, voilà, on a des combats quotidiens. Et cette place, ces combats sont âpres, les textes sont souvent compliqués, mais on n'a pas assez de femmes à l'UPP. Et vraiment, c'est une invitation très sincère de ma part. Venez, emparez-vous des sujets, il y a de la place, et puis nous, on vous attend. Voilà.
Allez les chercher aussi, je crois que j'ai cru comprendre que venez, mais allez les chercher vous aussi.
Tout à fait, on va les chercher. On est en partenariat, par exemple, cette année avec les filles de la photo sur l'Observatoire de la mixité, avec l'École nationale d'Arles, avec d'autres organisations. On est avec le festival Les Femmes s'exposent. On a chaque année, on expose le prix CEF. Ouais. À l'UPP, hein. C'était Delphine Blast qui était à l'UPP l'année dernière, et c'était un vrai bonheur avec les isolés d'Isabeau, un travail très très sensible à l'intérieur d'un EHPAD. C'était vraiment c'était une très belle exposition. Voilà, donc nous on est partenaire, on va à la fois, on est attentif, Mais voilà, l'invitation est, moi, mes bras sont grand ouverts. Voilà.
À bientôt à Holgate, j'espère.
À bientôt à Holgate, Béatrice, absolument. Merci infiniment, merci beaucoup.
Merci.
Et est-ce que je peux rajouter, Marianne et, je voulais rajouter que donc, nous avons la chance le samedi 12 juin d'avoir à Holgate donc, Marie Robert et Luce Lébar, les deux autrices de ce magnifique ouvrage, pour une signature de livre qui aura lieu lors de la remise des prix dans la salle des fêtes de la mairie le 12 à 18h. Voilà.
Et moi, est-ce que je peux poser encore une question ? Il n'y a que moi qui parle.
Isabelle, je crois que Livaro.
Ah, d'accord, ok.
Oui, je veux bien.
Une question à Marie-Robert.
Oui. Ouais. Si vous, vous me voyez ? C'est bon ?
Oui.
Donc, moi, ça ne serait pas une question, en fait. Ça serait vraiment un témoignage. Voilà, moi, j'habite. On habite sur Livaro. Holgate, on connaît très, très bien. C'est vraiment une affaire de cœur pour nous, Holgate. Et on a découvert le festival quasiment la première année. Tous les ans, on vient. Et on trouve vraiment, alors je veux dire puisque voilà, toi aussi, mais bon, du coup, je trouve vraiment que ce festival, il est assez incroyable. Donc déjà, je ne vais pas redire, mais déjà de rendre visible le travail de ces femmes, et je pense que c'est hyper important parce que l'invisibilité, c'est bon. Je crois qu'il faut arrêter avec l'invisibilité. L'invisibilité des femmes photographes, l'invisibilité des gens qui sont dans la rue, l'invisibilité des gens qui ne sont pas dans la norme, etc. Donc je trouve que ça, c'est super important. Et du coup, ce qui me paraît aussi super dans ce festival, c'est qu'effectivement, ce soit gratuit et que, connaissant moi très, très bien Holgate, le fait de déambuler dans Holgate, ça permet aussi d'appréhender la géographie du lieu, des différents lieux, finalement, d'Holgate, d'une façon complètement singulière et de s'approprier aussi différemment, du coup, les expositions, de s'imprégner, plutôt que d'aller dans une galerie où c'est quand même quelque chose, dans une galerie assez fermée, où on n'a pas suffisamment de champ parfois aussi pour pouvoir avoir cette distance, pour pouvoir être sur notre propre point de vue. Et je pense que c'est… Enfin, voilà, moi, je suis toujours très admirative, donc je tenais vraiment à le dire. En plus du travail que Mme Tupin elle a fait, parce que j'ai vu le reportage l'année dernière sur Spicy avec les enfants. Moi, je suis assez sensibilisée parce que de par mon travail, parfois, je travaille avec des enfants… des jeunes en situation de difficultés sociales, familiales et autres. Donc voilà, c'était ce témoignage-là que je voulais donner parce que c'est rare d'avoir un festival intelligent qui donne la place aux femmes, mais aussi qui donne la place à tout le monde de pouvoir s'imprégner vraiment et de réfléchir, de voir. Je pense que ça remet de l'humanité aussi, en fait. Ça remet de l'humanité, voilà. Et ça me paraît primordial, vraiment, et de plus en plus. Je vois que l'heure tourne et que Muriel le fait, oui. On souhaite poser une question.
Merci.
De rien. Je pense que c'est plaisir à Brigitte d'entendre ça. Merci. Ah, Béatrice.
Mais du coup, je vais essayer de faire vite. Bonsoir à nous, on ne se connaît pas, mais je serai à Holgate ce week-end avec mon amie Carla Bonny, qui est la fille d'une grande dame de la photographie, enfin, d'une photographe formidable. Donc, je travaille avec elle sur son front. Et j'ai écrit à Béatrice en ce sens.
Oui, oui.
J'espère qu'on aura l'occasion de soit se croiser, soit se rencontrer un peu plus longuement ou plus tard. Dans tous les cas, je voulais revenir juste rapidement sur finalement, enfin, aussi ce que ça, moi je me pose évidemment bien sûr beaucoup cette question du fait aussi de la personnalité de la photographe qui travaille, qui est Cookie White, qui était donc photographe et femme d'artiste. Et donc, pour revenir un peu sur cette question-là, comment nous, on est en train un petit peu de mesurer aussi l'ampleur de cette place que ça a pris dans son travail, le fait d'être femme d'artiste. avec et c'est des choses très très délicates en fait à étudier. Et j'ai lu récemment aussi une biographie de Dorama. Il y a des tas de choses comme ça. En tout cas, je pense qu'on est vraiment dans cette période où il y a toutes ces questions-là qui émergent. Et finalement, je trouve que quand on entend Béatrice Poupin nous raconter avec cette honnêteté et cette générosité ce parcours d'une femme iconographe, elles sont souvent des femmes, les iconographes, et elles font souvent travailler les photographes et beaucoup de photographes hommes. Il y a cette place comme ça. Moi, je trouve que cette place de l'iconographe, je la mets un peu en parallèle avec cette place de la femme d'artiste qui a, je trouve, qui prend beaucoup soin de l'autre, qui prend beaucoup soin de l'artiste, qui lui laisse la place, en fait, là où peut-être elle, on a parlé tout à l'heure de l'intimité, etc. Et je trouve que finalement, si on regarde en raccourci le partage de Béatrice, c'est aussi, ça montre un peu ça aussi, c'est qu'il y a des choses qui bougent, et y compris dans le parcours de Béatrice, on peut le mesurer, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler d'un festival de femmes photographes, je me suis dit, j'ai envie ou j'ai pas envie d'aller voir un festival sur les femmes. Et à force de travailler là-dessus et d'entendre un petit peu tout ce bruit qui monte, en fait, doucement, y compris à travers cet immense travail sur les femmes photographes de Marie et de Luc, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Et voilà, je suis très contente d'être là ce week-end.
Béatrice, ouais. Tu veux réagir? Les quelques mots de la fin, à moins qu'il y ait une question brûlante.
Oui, moi j'avais une question.
Oui, Béatrice.
Voilà, déjà je vous remercie l'une et l'autre. Et je voulais demander à Béatrice Dupin, est-ce qu'il y a une brochure ou un catalogue pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller forcément à Woolgat?
Non, il n'y a pas de catalogue parce que c'est un budget très gros. Et comme je disais, je crois que j'ai le budget le plus petit pour un festival en France. Donc, c'est pas, voilà, j'espère un jour pouvoir. Mais bon, si vous êtes à Paris, vous irez voir sur le parvis de la gare Saint-Lazare en fin juin et vous verrez plusieurs photos des expositions à Woolgat. Voilà.
Merci.
Sabrina Dolitz.
Oui, bonjour, on ne se connaît pas, mais j'avais simplement une question aussi pour savoir s'il existait des moments de rencontres professionnelles dans le cadre du festival et à quel endroit on peut identifier ces moments. Et puis par ailleurs, je rejoins tout à fait ce qui s'était dit précédemment sur le fait qu'en tant que femme, on peut se glisser n'importe où, ce qui est plus difficile pour les hommes, et y compris en France, hein, suivant les cultures, en fait, on a accès à plus de choses parce que du coup, on n'apparaît ni homme ni femme, mais on apparaît neutre. On ne fait pas peur. On ne fait pas peur aux hommes, et du coup, ça nous offre des possibilités de photographie qui sont plus importantes.
On est d'abord photographe avant d'être femme, alors.
En tout cas, sur certains sujets, on a intérêt à être photographe avant d'être femme.
Moi, je voulais juste te dire avant, parce que je trouve qu'on n'a pas posé de questions à l'historienne.
Je réponds juste à la question de...
J'aimerais quand même qu'on pose la question à Marie-Robert.
Il y a donc les journées presse le 11, 12, 13 septembre avec 7 des photographes qui seront présents, 11, 12, 13 juin, pardon. Tous les éléments sont sur le site lesfemmessexposent.com pour la jeune femme d'abord qui voulait les renseignements avec les remises de prix. Tout est noté. Voilà.
Marche, merci.
Oui, juste, je voulais dire que je pense que aurait été important de parler de Gisèle Freud et des femmes qui sont des ambassadrices dans leur domaine. Et j'aurais voulu poser la question, mais c'est trop tard, à Marie-Robert pour lui demander est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée qu'il y a des femmes qui, parce qu'elles ont quelque chose de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais une notoriété, ou parce qu'elles ont eu un rôle important à un moment donné, vont finalement aider les autres et les iconographes à sortir de l'invisibilité. Est-ce que historiquement, on peut le repérer, ce rôle des ambassadrices?
Oui, absolument. En fait, elles ont été très nombreuses à s'emparer de cette question et à promouvoir en fait aussi la photographie comme un moyen d'émancipation des femmes photographes et aussi des hommes. Mais bon, là, ça serait...
Parler de la notoriété aussi, hein, le rôle de la notoriété.
Mais ce n'est pas grave si on ne m'a pas posé beaucoup de questions, parce que moi, j'ai été captivée par à la fois votre écoute et vos remarques. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, ça nourrit le débat et ça permet aussi d'enrichir la réflexion, la compréhension de ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est quand même époustouflant avec ce que fait Béatrice, je le redis.
Je te prends dans mon équipe.
Bon, ben je...
On va s'arrêter là peut-être, oui. Catherine.
Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On remercie nos deux intervenantes formidables ce soir. Et puis vous tous, hein, qui êtes restés, qui êtes venus nombreux.